France Inter.
France Inter. Le téléphone sonne. Charlotte Piret.
Il m'a fallu quelques stations de métro à peine ce matin pour repérer telle épaule ornée d'une plume, une clé sur un poignet, cette rose sur un biceps, une autre plus imposante entre des omoplates. J'ai aussi aperçu des inscriptions en latin, en anglais, un flamenco sur un avant-bras, un prénom sur un autre. En cette saison estivale, les tatouages se dévoilent, se révèlent et s'exhibent. D'autres restent bien cachés, réservés à l'intimité. Mais volontairement discrets ou pleinement épanouis, d'encre sombrement noire ou éclatante tant de couleurs. Que disent-ils de nous, ces tatouages, alors que désormais près d'un Français sur cinq est déjà passé sous les aiguilles d'un tatoueur, eux-mêmes plus de 15 000 en France aujourd'hui, et un marché à 270 millions d'euros. Le tatouage s'est généralisé, presque banalisé, et débarrassé des mauvaises réputations qui jusqu'alors lui collaient encore un peu à la peau. Vulgaire, subversif, associé aux marginaux, détenus, prostitués, motards et j'en passe. Aujourd'hui, le porteur d'encre est aussi bien ouvrier que PDG, plus souvent une femme, plutôt jeune, et l'on serait sans doute surpris de voir combien de tatouages se cachent sous des costumes d'hommes politiques, des robes de magistrats et tailleurs de dirigeantes d'entreprises. D'ailleurs, saviez-vous qu'au-delà des évidents David Beckham, Angelina Jolie, Johnny Depp ou Julien Doré, Winston Churchill arborait une encre sur l'avant-bras, un dragon coloré pour le roi d'Angleterre George V, une tortue dans la nuque de Catherine Deneuve. Mais qu'est-ce qui pousse donc les tatoués à volontairement endurer des heures d'intense douleur, à figer tel dessin, symbole ou inscription pour la vie, au risque de s'en lasser, de le voir avec le temps commencer à baver? Et d'ailleurs, ça donne quoi, un tatouage sur une peau fripée? Quelle motivation derrière ce dragon? Quelle histoire a conduit à s'ancrer de noir? Car c'est aussi parfois une blessure physique ou psychique que le tatouage contribue à surmonter. Cicatrices, mastectomies ou blessures invisibles des victimes d'attentats, par exemple. Venez nous parler de votre peau et des motifs qui l'ornent peut-être, et posez toutes vos questions. On vous accueille par téléphone ou WhatsApp au 01 45 24 7000. Nos invités sont là pour vous répondre. C'est le téléphone sonne. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et nos invités, justement, accueillons-les. Nous sommes en studio avec Loïc Abraxas. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes tatoueur et Pierre Seur au studio Abraxas à Paris. Vous êtes tatoueur depuis plus de 30 ans, je crois.
Oui, tout à fait.
Nous sommes également en ligne avec Philippe Lyotard. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes anthropologue et spécialiste du corps à l'université Claude Bernard de Lyon 1. Peut-être une première question à vous, Loïc Abraxas. Je disais, plus de 30 ans de tatouage derrière vous. Votre métier, il a beaucoup changé en 30 ans.
Oui, ça a énormément évolué. Maintenant, on n'est plus du tout sur la même technique. Dans le temps, on soudait nos aiguilles nous-mêmes, etc. L'accessibilité aux pigments, au matériel. J'ai commencé, c'était les balbutiements d'Internet quand même. Donc, c'est pas... Donc voilà, mais c'est bien que tout doit évoluer dans ce monde, et le tatouage s'est vraiment ouvert depuis à beaucoup plus de gens, tandis qu'il y a une trentaine d'années, c'était plus des milieux un peu restrictifs.
C'est plus du tout les mêmes personnes qui poussent les portes de votre salon, par exemple ?
Non, maintenant, c'est vraiment, ça touche toute personne. On a des gens de 17 ans à 77 ans, et on peut avoir des dames qui viennent, par exemple, pour des problèmes de mastectomie, etc., à des âges plus avancés, qui vont faire leur premier tatouage à 65 ans, etc. Mais cliente la plus vieille qui s'est décidée sur un tatouage avait 86 ans.
Oh, c'est incroyable. Fou, hein. Et elle voilà. Vous a dit pourquoi elle venait ?
C'était à La Réunion, j'ai un magasin à l'île de La Réunion, et c'était une petite île sur le bras, et c'était son île à elle, sa version de l'île à elle, qui était une version un peu anachronique et un peu ancestrale, à mon avis, de La Réunion, qui n'est plus du tout La Réunion de maintenant, d'ailleurs.
Philippe Lyotard, derrière, effectivement, c'est le fait que ces chiffres hein, qui parlent d'eux-mêmes, désormais un Français sur cinq tatoué, il y a effectivement l'idée que le tatouage, c'est ce que je disais un peu en introduction, banalisé, et il est sorti de cette marginalité dans laquelle il a longtemps été.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une évidence. Là, on vient de parler d'une date. On a fixé à peu près une trentaine d'années, une évolution. Et je crois que ce qui se passe, c'est qu'il y a une trentaine d'années, justement, en 2025. Si on revient à 1995, ça fait 30 ans. Et c'est là qu'on va avoir, justement, les premiers salons de piercing. Et je pense qu'il y a quelque chose qui s'est joué à ce moment-là, où on passe effectivement à quelque chose qui va être beaucoup plus large en termes de d'action sur son corps. On va avoir les piercings qui arrivent en France et on a aussi les tatouages qui vont être relancés avec comme ça des allers-retours entre le piercing et le tatouage, en tout cas dans une volonté d'expérimenter des esthétiques qui vont être en rupture avec ce marquage social, marginal, traditionnel du tatouage qui date depuis le 19e, début du 20e siècle, qui était effectivement une pratique qui était plutôt dans des groupes marginaux, des groupes marginalisés également, que ce soit les mauvais garçons, les filles de joie, les délinquants, etc.
Et effectivement, je disais également en introduction, aujourd'hui le tatoué, il est plutôt jeune, c'est une femme en majorité, je dois dire que j'ai été étonnée de le constater en préparant cette émission. Ça reste un peu plus encore marqué dans les classes populaires, mais on a aussi le chef d'entreprise, les classes dirigeantes, les CSP+, qui s'emparent du tatouage et qui le revendiquent aussi, qui sont amenés aujourd'hui et qui l'assument peut-être plus facilement. Philippe Piotta.
Alors d'abord, ce sont des pratiques, le tatouage ou le piercing, ou toutes les pratiques qui touchent le corps, qui touchent l'ensemble de la population. Alors, dans ce que vous avez dit, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que quand on dit que ça touche plus les couches populaires, je pense que la personne qui est dans votre studio pourra témoigner qu'il doit toucher des personnes venues de tous les milieux sociaux. En revanche, la visibilité du tatouage est beaucoup plus, je dirais, plus contrôlé dans les groupes sociaux peut-être, ou dans les milieux sociaux plus favorisés. Vous parliez tout à l'heure de magistrats, d'hommes politiques. Il y a effectivement une façon de se couvrir le corps parfois, mais qui reste cachée pour correspondre aux codes sociaux, aux normes sociaux. Alors que dans les milieux plus populaires ou chez les populations les plus jeunes, on aura plus facilement la volonté, le désir de montrer son tatouage, que ce soit sur les bras, que ce soit sur les épaules, ou bien même de tatouer des parties du corps qu'on ne peut pas cacher facilement, comme les mains ou le visage, qui sont des pratiques plus récentes, qui existent depuis longtemps, mais qui sont plus récentes en dehors du champ des personnes du milieu du tatouage, par exemple.
Loïc Abraxas, vous confirmez, effectivement, on ne se tatoue pas aux mêmes endroits selon le travail qu'on fait.
Il y a une trentaine d'années, les mains, le cou, tout ça, c'était un peu plus réservé. Mm-hmm. Après, moi, la personne qui m'a appris à tatouer m'a demandé de respecter un code de déontologie, et c'est vrai que pour moi, tatouer la main, le cou en premier tatou, c'est pas possible, par exemple. C'est vraiment...
Pourquoi cela?
Parce que c'est comme à 17 ans, on n'aime pas le vin, et à 30 ans, on aime bien le vin. Donc les goûts vont évoluer, et là, ça vient vraiment du marquage, et ça peut être stigmatisant pour la suite de la vie. Pour certains métiers peuvent quand même rester réservés ou embêtants. J'ai déjà eu un client qui s'était fait tatouer les deux bras, il a voulu devenir gendarme, il a dû se faire détatouer un bras et en fait ils l'ont même pas pris, donc après on a retatoué le bras, donc c'est une perte de temps, perte d'énergie, et donc il faut quand même penser que ça ne s'en va pas. Et c'est vrai qu'il y a une trentaine d'années de ça, quand on tatouait les mains, le cou, c'est qu'on avait déjà fait tout le reste en général, c'était le costume était fait et on l'avait dépassé, alors que maintenant on s'aperçoit que c'est l'inverse, les jeunes vont plus aller vraiment, on veut le montrer, on veut consommer tout de suite maintenant et on garde les côtes pour plus tard. Moi je préfère un peu l'ancienne version quand même, je l'avoue.
Vous parliez, et c'est très intéressant, de la déontologie de celui qui vous a formé au tatouage. Il faut dire qu'aujourd'hui vous êtes très nombreux, hein, autour de 15 000 tatoueurs en France, mais il n'y a pas d'école officielle du tatoueur. Il y a le syndicat des tatoueurs, des artistes tatoueurs professionnels, mais malgré tout il n'y a pas une formation reconnue. C'est-à-dire, comment ça se passe? Vous le faites, c'est une formation qui se fait entre vous, par un apprentissage, c'est comme ça concrètement?
Moi je préfère cette version, oui, d'apprentissage, qui va se un peu comme le compagnonnage en fait, hein, donc avec un apprentissage dans le salon sur de la longueur en fait, et ensuite des fois ils ont besoin de partir un peu au loin, donc après on a un carnet d'adresses et ils vont aller explorer telle technique, etc. Donc on a tendance à avoir des salons, on est quand même plusieurs dans le issus de diverses origines, de divers pays, donc on a un apprentissage assez complexe. Moi je travaille encore avec des machines, ce qu'on appelle des coils, donc c'est vraiment le système de machines traditionnel. Maintenant on a une explosion des pennes, donc c'est une machine beaucoup plus simple qui nécessite pas forcément d'avoir d'autoclave, etc. Donc ça a ouvert un peu, même si après les caractéristiques techniques se discutent et les caractéristiques hygiéniques également, puisque dans la loi normalement qui encadre notre profession en 2008, on dit que le manchon doit être stérile. Mm-hmm. Avec les pennes, ce n'est pas toujours le cas. Donc là, bon, c'est un peu discutable. Mais
malgré tout, quand vous parlez de déontologie, il y a aussi ce que vous dites. Vous, moi, je ne tatoue pas sur les mains ou sur le cou en première.
Ouais,
ça, c'est simplement votre code à vous, finalement.
Ouais, d'un
tatoueur à l'autre, ça varie.
C'est mon parrain qui m'a appris à tatouer, Dan, qui est décédé maintenant, qui m'a demandé de respecter ça, de pas non plus les engagements politiques, tout ça, c'est pas trop mon truc non plus, le parti visible. Les mineurs, alors on a une loi en France qui encadre la profession, qui permet techniquement de tatouer des mineurs. Alors qu'on est le seul pays en Europe qui permet ça, là, quand on a fait la norme AFNOR avec les autres pays européens, c'était très difficile à tenir comme position, parce que moi, j'ai pas envie de tatouer spécialement des mineurs, mais il arrive qu'on tatoue des mineurs après 16 ans.
Mm-hmm. Avec une dérogation parentale, enfin,
avec
une autorisation.
Présence et dérogation, d'accord. Mais vraiment pour des raisons importantes, c'est des raisons de vie, des choix de vie. Alors, l'enfant a perdu un de ses parents, tout ça. Vraiment, faut pas que ce soit un truc qui soit juste de l'esthétique. Sinon, c'est une mauvaise raison. On se tatoue pour... c'est un petit quelque chose qu'on a dans soi, qu'on a envie de mettre hors de soi, pour moi. Surtout quand on est mineur. Après, quand on est majeur, ben, tant pis, on fait un peu ce qu'on veut. C'est vrai que les Anglais, à 18 ans, ils vont foncer chez le tatoueur, et c'est vraiment le premier acte assumé de majeur, c'est de se faire tatouer à 18 ans et un jour. Après, c'est souvent des tatouages qu'on peut regretter par la suite, parce que, comme je disais tout à l'heure pour le vin, les goûts évoluent, et à 18 ans, est-on complètement encore soumis dans nos désirs et dans nos choix ? Ça se discute.
Philippe Lyotard, il y a des bonnes et des mauvaises raisons de se faire tatouer ?
Eh bien oui, puisqu'on vient de l'entendre. Donc, moi je serais plutôt... Alors, ma position n'est pas la même qu'un tatoueur qui effectivement va poser un acte, va imprimer durablement un motif sur une peau, sur un corps. Pour moi, il n'y a pas de mauvaise raison dans la mesure où les personnes ont toute une bonne raison de se faire tatouer. Voilà. Mais... Et là, ça a bien été dit. Cette bonne raison, c'est quoi ? Par exemple, un jeune de 16 ans, s'il vient de perdre un parent, qui veut s'ancrer quelque chose dans la peau en souvenir de ce parent, ce sera acceptable. Mmh. Alors, on est bien sur des choix, en fait, des choix sociaux, qui considèrent que c'est acceptable. En revanche, s'il veut se faire tatouer une croix gammée au même âge, ce sera plus difficile, parce qu'un grand nombre de tatoueurs vont lui dire « je ne le fais pas ». Donc, on voit bien qu'il y a, même si la personne a une bonne raison de se faire tatouer, cette bonne raison, elle est prise dans le social, elle est prise dans l'environnement culturel. En revanche, ce qui vient d'être dit, je trouve que c'est très intéressant. On a beaucoup de tatouages. Je vous parlais tout à l'heure des femmes. Il y a beaucoup de femmes tatouées et j'ai travaillé justement sur les tatouages portés par des femmes. Mmh. En général, les tatouages ont aussi une signification pour la personne. On voit beaucoup, par exemple, aujourd'hui, de signes qui vont marquer une naissance ou bien qui vont marquer un décès. Donc, ils vont marquer effectivement des moments importants de la vie de la personne. Et ça, cette raison... On n'est pas de l'extérieur, on peut pas vraiment juger. C'est bien la personne elle-même qui va vouloir tatouer, par exemple, le prénom de ses enfants ou la date de décès de son parent. Donc ça, ce sont des choses qui effectivement sont très fortes. Un tatouage, c'est même si de l'extérieur on se dit c'est futile, ça ne l'est pas pour les personnes qui le font. Et c'est rarement uniquement alors bien sûr il y a des logiques esthétiques, mais c'est rarement uniquement pour des raisons esthétiques, parce que le tatouage c'est pas juste comme un maquillage, justement parce que ça dure. Et parce que ça dure, c'est une pratique d'ornementation qui a une plus-value par rapport au simple maquillage, qui a une plus-value parce que justement symboliquement ça compte, au moins pour la personne qui décide de le faire.
Nous avons Moustique qui nous écrit via WhatsApp, qui dit « J'ai deux tatouages que j'ai dessinés après le premier décès de mon amoureux, le deuxième après le décès de mon papa. J'éprouvais le besoin impérieux de graver leur existence dans ma chair comme un hommage à leur existence. » Effectivement, Loïc Cabraxas, c'est ce qu'on dit, les moments de vie ou de mort, ça reste des raisons très fréquentes de se
tout
faire
à fait,
tatouer.
Tout à fait, je pense qu'il y a au moins 20-30% des tatouages qui sont des tatouages funéraires, entre guillemets. Même moi, personnellement, j'ai des tatouages sur moi sur lesquels je ne parlerai pas forcément avec des journalistes, parce que c'est ma vie à moi, mm-hmm. C'est des choses qui ont été marquées parce qu'elles ont une raison d'être là, et qui sont des choses très très personnelles. Après, on peut dépasser la date et passer avec des fois un petit motif qui va rappeler la dite personne, etc., qui donne un côté plus esthétique. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que des fois, c'est un process de deuil. Et des fois, en allant trop vite le faire, on va le faire sur un endroit où on va le voir tout le temps. Mmh. Dans un process de deuil, c'est pas forcément le mieux. Des fois, le mettre sur un endroit où on verra pas tout le temps, ça évite de ramener à ce moment douloureux aussi, parce que bon, mais ça fait, ouais, c'est vraiment des moments importants pour les gens.
Mais ça, comment vous le percevez ? Ça veut dire que quand quelqu'un pousse les portes de votre studio, vous discutez avec lui de la raison pour laquelle il est là ? Ça vous arrive de renvoyer quelqu'un en disant « réfléchissez, revenez plus tard » Comment ça se passe finalement, ce pré-moment du tatouage ?
Il y a une grande mode de ce qu'on appelle le walking, où les gens viennent et veulent se faire tatouer tout de suite. Moi, je suis plus la vieille génération, c'est vrai que j'ai tendance à préférer discuter et prendre un rendez-vous ultérieur, déjà qui permet d'envoyer des idées. Et des fois, les gens vont réfléchir, une nuit, deux nuits de réflexion sont souvent judicieuses. Et après, le fait d'accueillir les gens, un beau tatouage, c'est un accueil réussi et un échange avant tout. Moi, la plupart des costumes, ce qu'on appelle un pyjama, donc un corps complet que j'ai fait dans ma carrière, c'est des gens que j'ai accueillis. Et le feeling est passé, et de fil en aiguille, on est parti. On a fait des tatouages de 300, 400 heures. Mais c'est vrai que l'accueil et l'échange, c'est un échange. En fait, moi, je vais mettre ma technique à leur service. Mmh. pour explorer leur univers, en fait. Moi, je suis pas... Maintenant, on a des artistes qui sont vraiment bloqués dans un style, qui veulent faire que leur style à eux. Moi, c'est pas ma génération. Je suis plus la génération où j'aime faire plein de choses différentes. J'aime bien faire du dotwork, du japonais, du graphique, je sais faire du polynésien, je sais faire plein de choses. Et ma technique est là pour exprimer l'envie et le besoin de ces gens.
Mmh. Nous avons Arthur sur l'appli Radio France qui écrit « Depuis mes 16 ans, je rêvais de me faire tatouer, mais j'ai attendu mes 25 ans pour sauter le pas afin d'être sûr de mon choix. » Philippe Lyotard, il y a cette idée, on parlait tout à l'heure du Royaume-Uni, c'est vous qui disiez ça, Loïc Abraxas, où dès 18 ans et un jour, on se rend chez le tatoueur. Il y a quand même cette idée peut-être de marquer aussi des moments particuliers de la vie, des passages de la vie, les moments où on perd quelqu'un, mais aussi des étapes comme celle de devenir majeur, par exemple.
Oula, ça c'est quelque chose qu'on retrouve, bien sûr, hein, et pas qu'en Angleterre, hein, le fait de marquer... le fait d'affirmer, en fait, hein, qu'on est adulte, qu'on est majeur et qu'on fait ce qu'on veut. J'ai une petite anecdote qui est assez drôle là-dessus. C'était une femme qui s'est tatouée à l'âge de 45-50 ans, je ne me rappelle plus exactement son âge, alors que son mari ne voulait pas. Et dans sa démarche, il y avait vraiment ça, le fait d'affirmer qu'elle faisait quelque chose pour elle et qu'on n'avait rien à lui dire de ce côté-là. Mmh. Et ça, on trouve cette même logique par rapport à l'affirmation de soi par un acte qu'on décide de faire indépendamment des pressions sociales. Et là, c'est une pression d'un très proche, puisque c'était son compagnon ou son mari. Et c'est un peu la même chose avec les jeunes qui vont se tatouer, parfois avec cette volonté de se marquer, alors que justement, les parents sont en désaccord avec ça.
Une sorte d'affranchissement.
Dans cet exemple. Oui, exactement, une forme de franchissement et d'affirmation de son propre désir. Et dans ce que vous disiez, la personne qui témoigne d'avoir choisi de se faire tatouer un peu plus tard, on le retrouve aussi autrement. Et là, notamment, j'ai vu des personnes d'un certain âge se tatouer alors que leurs enfants venaient de se faire tatouer. Par exemple, une personne d'une cinquantaine d'années qui se fait tatouer alors que sa fille ou son fils de 20, 25 ans est allé chez le tatoueur, ce qui lui donne l'autorisation avec des discours qui sont assez simples, en fait. C'est « ça fait des années que j'ai envie de me faire tatouer, ça fait 30 ans que j'ai envie d'être tatoué, j'ai jamais osé, et le fait que mon fils ou ma fille le fasse, ça m'a donné l'autorisation de le faire à mon tour. » Donc c'est vrai qu'il y a ces passages qui montrent que le tatouage, même si ça se popularise, ça reste quelque chose de fort dans la mesure où les personnes ont conscience que ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la légère.
Loïc Abraxas, je vous ai vu acquiescer sur l'anecdote des parents et des enfants. C'est des choses que vous avez vécues, le parent qui passe le cap après, ou la personne plus âgée qui passe le cap après un plus jeune.
Oui, beaucoup maintenant, et je trouve ça très joli de ce moment partagé entre une maman et une fille, ou entre papa et une fille, etc. Ce petit tatouage que au travers du fil du temps, forcément, l'enfant gardera le tatouage la plupart du temps beaucoup plus longtemps que le parent. Qui, au fil du temps, partira avant. Et du coup, ce tatouage-là, il ne peut pas être... C'est un moment unique et gravé pour la vie. Donc, même si c'est des fois un petit truc qui peut être insignifiant par rapport à un immense bras ou à des gros tatous, mais c'est un tatouage symbolique très important, donc c'est joli. Après, des fois, on a aussi eu des familles qui venaient se faire tatouer le tatouage. Une histoire triste, allez, il en faut quand même. Il y a quelques mois de ça, on avait une jeune fille qui avait pris rendez-vous pour un petit tatouage, et elle a eu un accident, et elle n'a pas pu venir à son tatouage parce qu'elle était décédée. Et sa famille, ses parents et ses frères et sœurs sont venus et ont fait le dit tatouage. Ils l'ont tous fait. Et bon, c'était très triste, mais ça faisait partie vraiment de leur... ils avaient vraiment l'impression de repartir avec un petit bout d'aile aussi. Mmh. Donc c'était triste et beau à la fois.
J'ai des questions très pratico-pratiques pour vous. Claire, par mail, qui nous demande « Peut-on se faire tatouer alors qu'on est enceinte et qu'on allaite ?»
Alors non, c'est déconseillé parce que déjà l'asepsie, tout ça, on pourrait avoir, potentiellement, il y a très très peu de cas, mais on pourrait avoir une micro-infection, etc. Donc il vaut mieux finir l'allaitement et se consacrer au tatouage ensuite.
Une autre question de Cécile via WhatsApp. « J'ai des tatouages que j'aime beaucoup, mais j'ai découvert de nouvelles études qui révèlent des risques de cancer. Comment pouvez-vous me rassurer ?»
Alors, au niveau de ces études, il y a le World CTP, qui était à la base le ECTP. C'est une association de recherche et développement sur les pigments tatous qu'on a mis en place en 2008 avec à la fois les pouvoirs publics, à la fois les médecins, les fabricants de pigments, les testeurs de pigments. Donc là, on a tous les jeunes dermatos qui lancent des recherches. Il y a une étude épidémio qui a été lancée il y a 4-5 ans à Lyon, d'ailleurs, sur le risque carcinogène des dits tatouages. Donc là, on aura la réponse dans une quinzaine d'années. Pour l'instant, ce qu'on a constaté, c'est que, par exemple, des rats tatoués en noir et surexposés aux UV ont développé moins de cancers de la peau que les rats qui n'étaient pas tatoués. Donc on pourrait imaginer que les Polynésiens, par exemple, se sont servis du tatouage pour s'adapter à un milieu qui n'était pas le leur à la base. On a démontré aussi que des gens qui se faisaient tatouer régulièrement avaient un système immunitaire plus développé, plus fort. Après, sur la dangerosité des pigments, ben, nous en France, on a une loi qui est très poussée. On a la loi la plus pointue là-dessus, puisque ça a commencé avant la dernière REACH, qui encadre tous les pigments tatou en Europe. Donc là, on nous a supprimé la moitié de nos pigments. Il y avait le cobalt, il y avait plusieurs produits qui ont été touchés. On a une vingtaine de produits qui ont été touchés dans nos encres. Après, la loi qui encadre cette loi, elle touchait 2000 produits dans le cosmétique. Donc, des boîtes qui font des produits pour les cheveux, je pense qu'on a eu beaucoup plus impactés. À partir de là, bah, y a une partie du monde du tatou qui s'est opposée au truc, une partie qui l'a suivi. Moi, je suis plus à tendance à suivre la chose parce que ben, j'ai pas du tout envie que mes clients ils chopent des merdes, etc. Après, on n'a pas le recul nécessaire sur tout, mais pour l'instant, rien n'est prouvé du tout. De plus, le pigment, quand il est mis dans la peau, il est vraiment en surface, il est emprisonné par les macrophages, donc il n'est pas à se balader dans tout le corps. Après, il faut que ce soit bien fait. Il faut pas que ce soit tapé trop fort, tout ça, parce que ben, plus on va profond dans la peau, plus il y en a qui va un peu se disperser, qu'on va retrouver dans les ganglions. Après, il y a un autre problème sanitaire dont on ne parle peu, c'est que le laser, en fait, le laser casse la molécule, la transforme en nanoparticules, qui, elle, sera évacuée par les voies naturelles. Donc là, il y a un autre truc un peu potentiel dont on ne parle pas, et comme c'est les dermatos en France qui appliquent le laser, tout va bien. Donc voilà, je lance un débat.
Ça
là.
Donnera peut-être lieu à une autre émission.
France Inter. Le téléphone sonne.
Vous êtes bien en téléphone sonne, on parle tatouage et ce qu'ils disent de nous. Nous sommes avec Loïc Abraxas qui est tatoueur depuis plus de 30 ans à Paris. Nous sommes avec Philippe Lyotard qui est anthropologue et spécialiste du corps. Et on accueille Alexia Cassard. Bonsoir.
Bonsoir Charlotte.
Bonsoir, vous êtes artiste tatoueuse et vous êtes notamment spécialiste du tatouage de reconstruction après une mastectomie. Et avec vous, je trouvais que intéressant d'aborder notamment cette thématique-là. Vous êtes chercheuse en cancérologie, vous avez été formée à l'hôpital Gustave Roussy et vous avez choisi de vous spécialiser dans le tatouage de reconstruction pour les femmes qui ont subi un cancer du sein.
Oui, tout à fait. C'est une histoire qui a mêlé la science et l'art. Et j'ai eu la chance d'avoir ce parcours de chercheur qui m'a permis de me rapprocher des équipes de chirurgie de Gustave Roussy, mais aussi de faire le lien avec le monde du tatouage qui n'a pas vu ma démarche comme quelque chose de bizarre ou de à côté de la plaque. Et donc j'ai été aussi accompagnée par des artistes tatoueurs extraordinaires qui m'ont ouvert leurs portes à partir du moment où je leur ai exposer ce projet.
Très concrètement, d'après ce que j'en ai compris, mais vous allez nous expliquer, il y a deux possibilités. Il y a celle d'embellir une cicatrice ou il y a celle de reconstruire notamment, de reconstruire le sein, mais également avec du volume, ce qui m'a, je dois dire, beaucoup étonnée. C'est les deux possibilités que vous offrez à ces femmes ?
Oui, absolument. La technique que je pratique pour plus de 90% des personnes qui viennent me voir, c'est la reconstruction 3D du mamelon. C'est une technique qui dérive du tatouage traditionnel et donc qui a été développée dans les années 2000 par un tatoueur américain qui s'appelle Vinnie Myers. Et donc on reconstruit à l'aide des encres de tatouage traditionnel et puis des techniques de tatouage traditionnel l'illusion de ce qu'on appelle la protrusion, c'est-à-dire le volume, la texture du mamelon et de l'aréole qui permet de donner un résultat beaucoup plus durable et surtout beaucoup plus ressemblant au sein contralatéral que les techniques traditionnelles qui étaient utilisées par le monde médical qui s'appelle la dermopigmentation et qui met en œuvre des pigments qui sont semi-permanents, comme le maquillage permanent, qui ont tendance à disparaître dans le temps et ça évite aux patients et aux patientes concernées de devoir se faire tatouer tous les ans comme c'était le cas auparavant.
Que disent-elles les femmes? Vous dites patients et patientes parce que vous avez aussi quelques hommes, je crois. Que disent-ils une fois passés sous vos aiguilles et ça leur fait du bien dans cette reconstruction après ce qui a forcément été une épreuve?
Oui, c'est un peu la cerise sur le gâteau après un parcours dans la maladie qui est jonché de difficultés, que ce soit du diagnostic à la prise en charge. Et effectivement, mon passé et mon présent de chercheur, parce que je continue cette activité, me permettent aussi d'aborder toutes les souffrances psychologiques qu'ils ont traversées, les difficultés humaines, sociales, la perte de repères aussi par rapport à son corps, par rapport à un conjoint qui peut avoir disparu, par rapport rapport à un travail qu'on peut avoir perdu. Il y a toute cette notion aussi d'accompagnement de ce geste. Et puis évidemment, le moment où on les place devant le miroir est extrêmement fondateur, parce que c'est une partie de soi qu'on a oubliée ou dont on n'a pas forcément fait le deuil, qu'on peut retrouver en quelques minutes, parce que le geste de tatouage en soi prend une trentaine de minutes.
C'est quelque chose que vous aimeriez, je crois, voir remboursé ou en tout cas pris en charge en partie par l'assurance maladie. Il y en a quelques-unes, quelques CPAM qui le font, mais ça reste encore très marginal.
Oui, c'est extrêmement marginal et c'est malheureusement aussi une technique qui a pâti de la médiatisation qu'il y a pu avoir autour d'elle. Certes, c'était positif d'entendre parler de cette technique un peu sur tous les médias à l'époque où j'ai démarré. Par contre, il n'y a pas eu de mise en œuvre de garde-fous et de protection. Et effectivement, avec le SNAT dont je suis la conseillère scientifique et technique, avec Grenouille et surtout Tintin qui continue à porter haut ces messages, on essaie de sensibiliser les ministères de tutelle qui s'occupent de cette question du tatouage à la nécessité à la fois de travailler sur la mise en sécurité et la protection de la profession, parce qu'elle est aussi mise en danger par des pratiques autodidactes et souterraines. Et en ce qui concerne cette pratique-là, de pouvoir travailler sur des référentiels de bonnes pratiques, de pouvoir travailler sur aussi des parcours de formation et de réserver ce geste uniquement à des gens qui soient compétents, qui possède à la fois les compétences scientifiques pour pouvoir aborder ces peaux opérées, ces peaux irradiées. Je rappelle qu'on travaille sur des peaux qui sont lésées par les traitements et par la radiothérapie et la chirurgie. Et donc de ne pas laisser ce type de geste se faire à la petite semaine dans des établissements par des gens qui n'ont pas de formation ou quelques heures de formation, parce qu'il y a une offre pléthorique de formation qui mélange la dermopigmentation, donc le tatouage semi-permanent, avec le tatouage artistique. Et donc il y a un vrai travail de lobbying positif à faire pour protéger des personnes qui sont déjà vulnérables et déjà abîmées dans leur corps et dans leur cœur.
Merci beaucoup Alexia Cassard d'avoir parlé de cette spécialité-là. Philippe Lyotard, effectivement, le tatouage, ça peut aussi aider à réparer.
Oui, tout à fait, bien sûr. Alors ça, c'est des choses, notamment, j'ai travaillé sur des questions de reconstruction de personnes qui ont justement subi des opérations chirurgicales avec beaucoup de femmes. Effectivement, il y a eu depuis quelques années, notamment autour d'Octobre Rose, il y a eu une communication très forte sur ce qu'on pouvait faire avec le tatouage, qui n'est d'ailleurs pas seulement une question de reconstruction avec, par exemple, un téton en 3D qui, effectivement, permet de donner une image d'un sein qui n'est pas altéré, mais il y a aussi d'autres choix, d'autres stratégies. On peut tout à fait choisir des tatouages qui sont pas du tout dans la reconstruction ou dans le fait de donner une image qui serait une image d'un sein normal, mais qui peuvent être vraiment des tatouages à visée esthétique, qui peuvent être
autour d'une cicatrice par exemple.
Alors d'ailleurs c'est intéressant ce que disait Madame Cassard juste avant, c'est-à-dire que tout est possible. C'est-à-dire qu'on peut à la fois avoir une reconstruction avec des implants, par exemple, garder la cicatrice telle qu'elle est, la recouvrir, jouer avec elle. En fait, il y a une grande diversité qui correspond à une rencontre entre une personne et un tatoueur ou une tatoueuse. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que la personne va remettre son corps entre les mains d'une personne en qui elle a confiance. Et là, effectivement, il faut qu'il y ait des compétences, bien sûr. Mais avec qui elle va pouvoir justement travailler sur la construction d'une image positive de soi. Et ça, c'est vraiment important.
Laurent nous attend depuis un petit moment au standard. Bonsoir, Laurent.
Oui, bonsoir.
On vous écoute. Parfaitement, on vous écoute.
Ouais, super. Non, moi je réagissais parce que voilà, moi j'ai 51 ans et alors c'est vrai que quand j'étais jeune, le fait de se tatouer c'était être un peu rebelle et c'était assez marginal et ça me donne envie du coup. Mais maintenant moi j'ai l'impression qu'autour de moi tout le monde est tatoué et en fait maintenant j'ai l'impression que c'est moi le rebelle qui suis pas tatoué. Donc ça, je voulais juste vous faire partager mon ressenti et en plus d'une part et d'autre part... Je suis quelqu'un qui essaie de manger sainement, qui essaie de faire attention à ce que je mange et manger sainement d'un côté et d'un autre côté mettre des encres, je sais pas comment ça va finir dans mon corps. Voilà, ça m'interpelle un peu. Donc en fait, il y avait juste ces deux aspects du tatouage que je voulais relevé.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Laurent, Loïc Abraxas. Ça, c'est cette inquiétude-là qu'a Laurent, vous l'entendez souvent ?
De toute façon, le tatouage en France, c'est 90% des tatouages, c'est du tatouage en noir. Donc le noir, c'est du carbone, il y a beaucoup moins de problèmes. Les allergies au noir, j'en ai vu, j'ai dû en voir 2-3, et c'était vraiment des noirs spécifiques. Donc c'est vraiment, il n'y en a pas. Il n'y en a pour ainsi dire pas. Les seules allergies qu'on peut voir, c'est le rouge. Et là, ce qui nous attend tous en tant que professionnels du tatou, c'est que les dernières lois, donc les dernières lois qui encadrent les pigments tatou, influait beaucoup sur le bleu, le vert, qui n'était jamais allergène, et pas du tout sur le rouge, qui est très allergène. Donc là, c'est vrai que bon, ça pose quand même des petites questions, mais ça reste quand même vraiment anachronique et très très rare.
Philippe Lyotard, Laurent qui se sent rebelle de ne pas être tatoué, ça en dit long sur l'évolution du regard qu'on porte sur le tatouage aujourd'hui.
Si on considère qu'il y a 20% de la population qui est tatouée, ça veut dire qu'il y a 80% qui n'est pas tatoué. Donc, il y a encore une large majorité de personnes qui ne sont pas tatouées. Alors, peut-être que ça renvoie aussi à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est aussi la façon de montrer le tatouage. Il y a peut-être, on voit effectivement dans la rue des tatouages assez facilement, alors qu'on n'en voyait pas il y a 30 ans, effectivement. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent donner cette impression. Après, sur la remarque, j'ai fait attention à ce que je mange. Je voudrais pas mettre n'importe quoi sur ma peau, bah, il existe par exemple des tatouages véganes. C'est-à-dire qu'il y a aussi des filières de personnes qui sont très attentives et qui vont être y compris attentives à ce que, par exemple, les pigments ne soient pas expérimentés sur des animaux. Donc, on voit comment le tatouage en tant que pratique est aussi influencé par des choix de vie, des choix philosophiques.
Alors, si je me permets, du coup, on les teste pas sur les animaux, on les teste directement sur les clients. Donc, dans ce cas-là, ceux-là, les pigments végans, c'est cela.
Alors là, je sais pas, moi je suis pas spécialiste de ces... Non, mais voilà,
c'est qu'il y a des choix.
Il y a des choix qui sont effectivement, qui renvoient à des choix philosophiques de personnes qui vont tenir compte de leur engagement, par exemple vegan, et qui sont elles-mêmes tatouées, ces personnes. Donc là, il y a effectivement une volonté de ne pas porter n'importe quoi, n'importe comment. Je ne connais pas effectivement la filière, mais le débat, Loïc, est intéressant justement à mener. Et c'est peut-être plus à mener entre tatoueurs, entre des personnes qui vont se déterminer comme étant des tatoueurs qui s'inscrivent dans la philosophie végane, et puis d'autres qui sont peut-être respectueux des règles, notamment sur les pigments tels qu'elles sont, et des lois telles qu'elles sont imposées chez nous. Mais voilà, je pense que c'est aussi à avoir en tête le fait que le tatouage n'est pas juste une pratique comme ça, qu'on ne rentre pas dans un salon sans avoir réfléchi. Je pense que les personnes se font tatouer ont, pour la majorité d'entre elles, une démarche et une volonté que leur démarche soit en cohérence avec leur philosophie et leur éthique.
Loïc Abraxas, est-ce qu'il y a une addiction du tatouage ? Est-ce que le premier tatouage en appelle souvent d'autres ? Vous envoyez souvent les gens revenir ?
Souvent, la désacralisation du corps, du fait du premier tatouage, emmène à d'autres choses, à la vie, emmène après à d'autres choses. Après, ce que je tiens à faire remarquer, c'est que quand on rentre dans un salon, on va déjà remplir un petit papier, comme quoi on n'est pas sous l'emprise de produits illicites, d'alcool, etc. Alors qu'on voit l'émergence et l'explosion de petits tatoueurs à la sauvette dans la moindre soirée, mariage, fête techno, etc., où là les gens sont clairement sous l'emprise de l'alcool, voire dans des bars dans le 11e, là il y en a un, au-dessus d'un bar rock, là, dont je tairai le nom, à l'étage ils ont mis un tattoo shop, donc là qui bosse jusqu'à 3h ou 2h du matin, où là les gens sont clairement sous emprise d'alcool, etc., donc désinhibés. Donc là, est-ce que il ne faut pas se poser la question, parce que le législateur normalement avait bien prévu que ça ne se passe pas comme ça, et en fait ça se passe quand même comme ça.
En creux de ce que vous dites depuis le début de cette émission, il y a quand même j'ai le sentiment, en tout cas, mais dites-moi si vous le partagez, qu'il y a peut-être un besoin de réglementation un peu plus stricte, que ça ne suffit pas en l'état actuel des choses sur le monde du tatouage. A fortiori, si effectivement de plus en plus de personnes sont concernées.
On a monté un petit peu là. Le stage hygiène maintenant est suivi d'une validation à la fois.
Le stage hygiène, c'est 5 jours obligatoires.
C'est trois jours obligatoires en France. C'est pas super long, mais c'est quand même ça. Donc là, on va aborder que la partie hygiène, on ne va pas aborder du tout la technique. Et donc maintenant, ces 3 jours, ils sont suivis d'un jury qui va quand même évaluer les stagiaires et de questions validantes. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que là, pendant 15 ans, moi, ça m'est arrivé, je suis formateur également avec le CRIPS, donc il y a un organisme d'État. On travaille à l'hôpital Tenon. Je suis co-rédacteur du stage d'hygiène à la base. Mm-hmm. Et on a des gens, moi j'ai déjà eu des gens d'origine asiatique qui sont arrivés, qui ne parlaient pas français, qu'on va assister au truc pendant 3 jours. Et à la fin, ils sont partis avec leur stage en poche. Et là, c'est pas possible. J'étais révolté.
Effectivement, dans ce qu'on disait hein, de l'explosion des tatoués, il y a aussi l'explosion des tatoueurs, c'est ce que
les
vous disiez.
Les tatoueurs et aussi des gens qui vendent notre métier à la va-vite et à la sauvette, avec des stages de 5 jours, ou de stages pour apprendre le piercing en 5 jours, etc. C'est des arnaques, c'est pour ça c'est le CPF qui... On tape dans le CPF, dans le truc de formation, là c'est n'importe quoi, c'est pas... En 5 jours, on va pas apprendre à tatouer, on va apprendre à faire des tatouages, on va pas devenir tatoueur en 5 jours. Mmh. C'est pas... c'est des années de travail, moi ça fait 30 ans et je continue encore d'apprendre et je continue encore de me maintenir la fois sur les techniques, sur les tout ça, mais c'est pas non, il y a vraiment un... c'est comme le piercing, on peut pas apprendre à percer en 5 jours, il faut qu'un piercing va mettre entre 3 et 6 mois à cicatriser. Comment vous voulez apprendre à percer si vous n'avez pas fait un truc qui est au moins une fois cicatrisé? Donc là c'est un peu une explosion, on essaye des gens qui essayent de vendre notre métier à la sauvette. Je suis pas trop pour, et le monde du tatou, les professionnels ne le sont pas pour non plus en général.
Nous avons Alice au standard, et je crois qu'Alice, vous êtes vous-même tatoueuse.
Et non, pas moi exactement, c'est ma compagne qui est tatoueuse depuis un long moment sur Valence. Et je lui avais envie de partager un petit peu juste un élément. C'est vrai qu'on parle souvent de cette idée de se lasser d'un tatouage, d'avoir peur qu'on en ait marre de le voir sur son corps. Et elle m'a dit dès la première fois qu'en réalité, un tatouage, il faisait rapidement partie intégrante de la vision qu'on a de son propre corps. Et qu'on finissait soit par l'oublier, soit par le voir comme on verrait un grain de beauté ou une cicatrice. Et pour le coup, on est ensemble depuis 6 ans. Et c'est vrai que je confirme complètement cet aspect-là du tatouage. Je ne la verrais pas de la même façon. Ça me ferait très bizarre aujourd'hui de la voir sans ses tatouages.
C'est-à-dire que vous-même, vous avez oublié ses propres tatouages à elle. C'est pas uniquement sur son corps, c'est aussi le regard que vous avez sur le corps de votre compagne.
C'est ça, oui. Enfin, on ne peut pas vraiment dire que je les ai oubliés parce que je continue régulièrement à les regarder avec pas mal d'admiration, bien que moi-même, je ne sois pas du tout tatouée. Mais ça fait vraiment partie de qui elle est. C'est aussi son identité.
Merci beaucoup Alice pour votre témoignage. Philippe Lyotard, effectivement, il y a cette idée quand même de changement d'identité quand on se fait tatouer. Et du fait qu'on adopte une nouvelle
identité. Oui. Enfin, changement d'identité, ça participe à son identité, en tout cas à ce qu'on affiche. Mais je trouve très intéressant le témoignage qu'on vient d'avoir, parce que c'est souvent quelque chose qui... Enfin, c'est la plupart des gens qui sont réticents à ce que leurs enfants se tatouent, par exemple. Il y a ça en arrière-plan. Tu vas le regretter plus tard. Or, pour avoir travaillé moi aussi depuis plus de 30 ans maintenant sur le tatouage, et pour avoir rencontré des personnes qui étaient déjà très lourdement tatouées, en fait, ce sont des personnes qui ont aujourd'hui 60, 70 ans, 80 ans certaines. Elles sont tatouées et en fait, elles vivent avec leur tatouage qui s'est transformé avec elles. C'est plus le tatouage tel qu'il a été posé par un tatoueur il y a en 1984-85. Effectivement, les couleurs se sont transformées, la peau s'est transformée, mais ça fait partie de l'identité des personnes, ça fait partie d'elles-mêmes. Et donc, elles ne regrettent pas. Ou alors, il y a d'autres pratiques, effectivement, qui peuvent être sans le retrait, parce qu'on est un petit peu dans cette démarche. Si ça ne te plaît pas, il faut passer au laser pour l'enlever. Je constate que beaucoup de personnes vont garder le tatouage, vont par exemple le recouvrir, vont faire autre chose à côté qui va prendre plus de place et qui va correspondre à un moment de leur vie qui a du sens. Et il y a aussi autre chose, c'est que la personne qui dit « ça fait 6 ans que je suis avec elle », ben si on est ensemble et qu'on s'aime, on va bien sûr participer à porter un regard positif sur la personne qui porte un tatouage. Et ce regard positif, il correspond aussi au fait que eh bien, ce tatouage que je porte depuis longtemps, c'est aussi la manière dont les personnes que j'aime me reconnaissent, et ça fait partie de moi, effectivement. Et donc, ce sont des choses qui sont plutôt positives, je vois, autour de moi. Alors, effectivement, on peut regretter un tatouage, et là, ou bien on va chez le tatoueur, ou bien on va chez le dermatologue, ou bien on le couvre, mais c'est rarement des choses qui sont... Enfin, je vois plus souvent des personnes qui vivent avec un tatouage longtemps et qui l'acceptent dans sa transformation même, plutôt que des gens qui cherchent à tout prix à retirer quelque chose qu'elles regrettent. Ou alors, c'est des personnes qui, comme le disait Loïc tout à l'heure, ont fait quelque chose dans une soirée, en étant alcoolisées, et puis bon, on a rigolé sur le moment, et puis 2 mois après, on se dit « qu'est-ce que j'ai fait ?» Voilà, effectivement, il y a ça aussi.
Loïc Abraxas, effectivement, il y a cette question de comment ça vieillit avec la peau, un tatouage. En fait, on sait qu'il y a des tatouages qui bavent parfois un peu, ça peut arriver. Et puis, il y a le vieillissement naturel de la peau, on finit ridé forcément un jour ou l'autre.
Moi, j'ai des clients qui sont... J'ai des clients assez vieux, assez âgés maintenant, qui ont 80 ans et plus. Alors, c'est pas moi qui ai fait leur premier tatou, forcément. Hein, mais je les ai accompagnés, etc. Après, je pense que vraiment, la façon dont le tatouage est réalisé peut jouer énormément sur le fait qu'ils bavent ou qu'ils ne bavent pas. Les endroits où on va tatouer aussi, les plis de la peau, les endroits de pliure, etc. Après, on se lasse pas forcément d'un tatouage parce qu'il faut imaginer qu'il est toujours en mouvement aussi. C'est pas quelque chose de statique qu'on prend, qu'on accroche sur un cadre. C'est quelque chose qui est posé sur la peau. Donc, dès que la peau est en mouvement, le dessin bouge également. Il vit avec nous. Il grossit avec nous si on grossit, il maigrit, etc. Donc, ouais, ça fait partie de nous.
Mais est-ce que ça, justement, cette évolution-là, elle va pas forcément vers un moins bien par rapport au dessin qu'on a conçu, imaginé et voulu au départ?
Bah, il faut écouter le tatoueur. Et souvent, le client, ils veulent avoir des petits tout petits, tout petit. Non, tout petit, ça marche pas. Trop de détails tue le détail. Mm-hmm. Donc, il faut que le tatouage respire, il faut que la peau reste présente. Il faut écouter l'artiste tatoueur qui va vous tatouer. Il faut pas imposer des choses parce que sinon, bah, ça marche pas bien. Il peut y avoir des détails, mais le détail doit avoir une lecture. Ça peut être des plans, mais il faut quand même qu'il y ait une lecture générale. Il faut pas que la peau soit trop saturée non plus, à mon avis. Il faut faire des effets. Moi, j'aime bien garder la peau dans le tatouage parce que c'est ce que l'œil va viser en premier. Donc, les parties blanches vont faire des plans avant, etc. Donc, mais si c'est bien réalisé, si c'est... Puis bon, toutes ces personnes aussi, on a eu les anciens tatoueurs nous ont permis de faire évoluer nos techniques. Mm-hmm. On a monsieur Bruno Apigal qui a beaucoup tatoué, les années 60, 70, tout ça, bon bah voilà, mais ça nous a permis de faire évoluer, de comprendre des choses, la profondeur à laquelle on met le pigment, etc. Non, il y a vraiment beaucoup de techniques, la technicité de la chose est très importante.
Nous avons Pierre via WhatsApp qui nous dit « J'essaye de comprendre ce que dit le tatouage de notre société, n'y a-t-il pas dans la mise en valeur de son corps une démarche un peu narcissique ?» Philippe Lyotard, je pense que cette question est pour vous.
Bah, je ne sais pas, moi, enfin, démarche narcissique, oui. Narcissique, à partir du moment où on fait quelque chose pour soi, c'est narcissique, bien sûr, mais ce n'est pas forcément narcissique. Ah, par exemple, le fait de se tatouer sur une partie du corps que je ne montre pas ou que je choisis de montrer aux seules personnes qui comptent vraiment pour moi, est-ce que c'est narcissique? Je ne sais pas. Il y a aussi ça, peut-être, parce que souvent, on se retrouve avec un jugement négatif, a priori, sur le tatouage. Mm-hmm. On l'a vu sur « tu vas regretter » ou là, on va dire que c'est une pratique narcissique. Mais à partir du moment où le tatouage s'inscrit aujourd'hui dans notre société comme une pratique d'ornementation au même titre, même si ce n'est pas la même chose, mais au même titre que le fait de porter une chevelure qu'on va aller travailler chez le coiffeur, un maquillage qu'on va aller faire chez une esthéticienne, mmh. ou des ongles qu'on va se faire poser, tout ça ce sont des pratiques qui sont complètement, je dirais aujourd'hui, incluses dans les manières de se présenter, dans les manières d'être soi. Ce sont toutes des pratiques narcissiques à ce moment-là. Mais ce sont des pratiques narcissiques qui s'inscrivent dans aussi des codes sociaux, des normes sociales qui font qu'on invite chacun de nous, chacune de nous, à faire attention à soi, à se présenter d'une manière positive, et le tatouage y participe. Voilà. Donc je ne pense pas que ce soit quelque chose de pathologique au sens d'un narcissisme qui serait critiquable, par exemple.
Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Nous étions avec Loïc Abraxas, merci beaucoup, vous êtes tatoueur à Paris, Philippe Lyotard, anthropologue et spécialiste du corps à l'université Claude Bernard de Lyon. Vous pouvez réécouter cette émission sur l'appli Radio France, et pour aller plus loin, je vous conseille le magazine Interception qui a consacré un de ses reportage long format à la France tatouée. Le lien est sur le site de notre émission. À la technique et réalisation du téléphone sonne cette semaine, il y avait Loïc Frapsos, Philippe Duclos, Adèle Caglar, Thomas Allard et Cédric Diallo, Cyrine Benyounès et Pierre de Certaine à la préparation. On leur souhaite de très belles vacances bien méritées. Simon Bardier à la documentation. Awa et Simon vous ont accueilli au Standard cette semaine. Dans un instant, les infos de 20h.
Bonjour, je m'appelle Louise et je voudrais savoir comment est-ce que l'on a donné des noms aux esclaves qui n'en avaient pas. Merci, au revoir.
Et ça, c'était la question des petits bateaux, la réponse juste après le flash.